Eh bien, nous voilà réunis pour la deuxième table ronde autour des états généraux de la poésie, qui sont consacrés cette année aux métamorphoses du poème. Bénédicte Goriot sera la températrice de cette rencontre, une rencontre autour du patrimoine à la modernité, avec Dominique Buisset, Jacques Darras, Philippe Dimeo et Daniel Robert. Bénédicte, je te laisse la parole.
Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à vous pour votre présence autour de cette problématique passionnante annoncée en titre par le titre de la table ronde. Alors, je permets juste quelques mots introducteurs, histoire de chauffer la salle, hein, et ensuite de laisser s'exprimer nos quatre invités. Alors, nous avons donc l'honneur d'accueillir pour cette réflexion Dominique Buisset, qui est juste à côté de moi, Philippe Dimeo, Daniel Robert et Jacques Darras. Alors, évidemment, je me suis empêtrée dans mes notes. C'est pas grave, hein, ça va venir. Il faut juste que je les retrouve dans le bon ordre. Voilà, c'est bon. Alors, la réflexion que nous propose le titre de cette table ronde, du patrimoine à la modernité, bah évidemment prend des accents particulièrement aigus avec l'actualité récente de l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui ravive une querelle entre une certaine conception du patrimoine, vécue dans la conservation du passé à l'identique, et les tenants de l'appropriation moderne, tenant d'une rénovation non à l'identique, querelle qui va bien au-delà des contraintes d'adaptation à des matériaux désormais déficients pour reconstruire précisément à l'identique. Cette querelle ravivée entre les tenants du patrimoine et tenants de la modernité suggérerait une opposition frontale, voire une incompatibilité entre les deux notions. Mais le titre de la table ronde, si vous l'avez bien en tête, s'il maintient l'idée d'une différence, voire d'un différent, avec un D, entre volonté patrimoniale et volonté moderne, voire moderniste, suggérerait aussi un lien possible du patrimoine à la modernité. Et le jeu des prépositions dessine quoi ? Une continuité possible, un prolongement, un lien de nécessité ? Mais qu'entendre précisément derrière ces deux notions, patrimoine, modernité, objet de notre attention ? C'est-à-dire plus précisément, qui entendent nos quatre invités ? Quel rapport plus ou moins complexe pose-t-il entre patrimoine et modernité ? Alors, tous les quatre sont des traducteurs, raison pour laquelle ils ont été réunis ici. Et ils sont traducteurs ajoutés à une pratique personnelle, éventuellement aussi poétique, créatrice. Et c'est certainement ce qui motive aussi le désir de les avoir réunis pour voir comment s'expliquent leurs gestes et de traduction et de poète. Est-ce animé par une intention plus ou moins patrimoniale ? Par une ambition de modernité, c'est-à-dire à partir au moderne, construire le temps moderne, voire être radicalement moderniste. Alors, pour préparer l'échange d'aujourd'hui et voir les réponses qu'ils pourront nous proposer, je leur ai demandé de choisir un ou deux extraits significatifs de leur pratique littéraire, hein, de traducteur ou de poète, et partant de leur positionnement théorique. Alors, pour faciliter la succession de la parole, on va suivre l'ordre pseudo-chronologique, je dis bien pseudo, on y reviendra largement ensuite, qui va du patrimoine à la modernité, associant le patrimoine au père, au passé, à l'ancien, jusqu'à la modernité, associée traditionnellement par cliché, au temps présent. Et c'est la raison pour laquelle je propose de donner d'abord la parole à Dominique Buisset, que je vais présenter rapidement, si mes notes veulent bien se remettre dans l'ordre. Ouais. Alors, Dominique Busset est traducteur et poète. Il vit entre Marseille et Corse. Beaucoup de gens du Sud dans cette table ronde. Il est traducteur notamment de l'anthologie grecque, recueil de volumes d'épigrammes choisis, paru à la différence entre 1990 et 1993, si je ne me trompe, et aussi d'autres traductions d'Eschyle et de Virgile présentées sur scène par Miloud de Kétib. Il est aussi auteur de prose brève ou de vers contés, notamment Quadrature, voilà, j'ai ramené, paru aux éditions Nous en 2010, et de nombreux articles aussi sur la littérature gréco-latine. Alors Dominique, est-ce que vous pourriez nous lire l'extrait que vous avez retenu ?
Je vais commencer, comme on me le demande, par des lectures, mais elles seront brèves. Je vais commencer par des vers contés, puisque dans ma pratique, j'écris. Cette fois-ci, je parle d'écriture, hein, pas de traduction, bien que je considère la traduction comme une pratique d'écriture. Mais donc, j'écris des vers contés et de la prose brève, mais que je considère comme de la poésie également. Je vais vous lire d'abord un court poème, conté rimé. Si le poème est un rêve du nombre, dans le désordre qui met la césure, nomme et compte et divise le réel pour éviter qu'il soit un chaos sombre, dans l'équilibre inscrivant la rupture, par lui le jour et la nuit abrupture, à distinguer ce qui s'éclaire ou sombre, en niant l'illusion de l'éternel, le poème à la voix juste mesure, l'humain à n'être que rêve du nombre. Je vous lis ce poème parce que, malheureusement, il est incompréhensible quand on ne l'a pas sous les yeux. Donc, je voudrais une note orale. C'est que le premier vers et le dernier vers riment, mais l'un parle de nombre, tandis que l'autre parle d'ombre. Et pour ce qui est de l'héritage patrimonial, c'est un poème inspiré, pardon de la prétention, mais par une lecture du poète grec Pindare. C'est-à-dire qu'il est question dans Pindare de réduire l'homme à n'être que le rêve d'une ombre, et il me semble que le poème conté est un rêve du nombre, lui. Bon, c'est un exemple, si vous voulez, d'un point de départ pris dans un patrimoine très lointain et qui débouche, mais d'une manière très indirecte et très biaisée, sur une pratique contemporaine. Au reste, ce que je voudrais dire, si vous m'accordez encore quelques minutes, c'est que je ne suis pas passionné par la question du patrimoine et encore moins par celle de la modernité. Il me semble que, de nos jours, le patrimoine est un vilain tiroir dans lequel on range des choses dont on veut se débarrasser, c'est-à-dire qu'il s'agit de définir comme morte et muséale une culture qui pourrait être vivante. Je veux dire par là que, finalement, les auteurs anciens, ben, faut les lire et non pas les mettre au musée. Ça pose quelques petits problèmes, évidemment, puisqu'il faut les traduire pour les lire et qu'à partir du moment où ils sont traduits, on ne sait plus à qui on a affaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand on lit Virgile traduit par Dupont, Durand, Buisset, on ne sait pas si on lit du Virgile ou du Dupont, du Durand ou du Buisset. Et il est bien évident que si le traducteur n'est pas trop mauvais, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on lit à la fois du Virgile et du Buisset. Et donc, dans la mesure où je revendique la pratique de traduction comme une pratique d'écriture, je ne vois pas comment cette pratique d'écriture pourrait être mimétique par rapport au texte de départ. Elle est traductive, c'est-à-dire qu'elle en est loin, et donc elle est par définition moderne. De toute façon, je ne vois pas bien ce que c'est que la modernité, sauf à être une revendication ou une revendication légitime d'une forme de travail, ou bien au contraire un pavillon de complaisance. Mais il ne me semble pas qu'un poète vivant puisse être autre chose que moderne. Je ne suis pas antique, je circule en voiture et en métro, pas Virgile. Donc je ne peux pas éviter d'être moderne.
Alors, merci Dominique Busset. Donc, d'emblée, vous soulignez en fait la complexité des rapports qui existent entre ces deux notions et que tout dépend de ce qu'on met derrière, de ce qu'on met derrière le mot patrimoine. Vous semblez finalement dire, je ne sens pas spécialement du côté du patrimoine, parce que vous en avez eu une entente comme associée à un figement muséal. Vous avez prononcé ce mot de musée. Alors, je me permets juste de vous lire dans votre présentation de votre traduction de l'Énéide, où il me semblait que vous proposiez d'infléchir légèrement cette notion de patrimoine en l'ouvrant vers une entente un peu plus contradictoire, voire dialectique. Vous présentez l'Énéide, donc c'est une traduction du chant 2, qui est paru dans la revue Poésie, le numéro 147, donc la revue Poésie dirigée par Michel Deguy, en 2014. Je vous lis. On entend dire, on lit à droite et à gauche, que l'aîné est un roman historique, un roman d'aventure. C'est un contresens. L'Énéide est un poème. L'épopée ne compte pas les fées et les héros, elle les chante. Autant que la prise et le sac de Troie, ce chant 2 a pour sujet la vocation du héros. Quittant vaincu les ruines fumantes de Troie, il, c'est-à-dire aîné, emporte avec lui l'héritage symbolique du passé sur ses épaules, son vieux père Anchise. Il mène l'avenir par la main. Son fils Iule, futur ancêtre des Césars.
Oui. Il me semble que ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'être le futur ancêtre de quelque chose. C'est-à-dire que, en effet, Aîné, le personnage de l'Énéide de Virgile, emmène son vieux père sur ses épaules. Mais les dieux vont l'en décharger opportunément pendant son voyage. C'est-à-dire qu'avant d'aboutir en Italie, où il va fonder, où il va être à l'origine de la future fondation de Rome, eh bien, son père va mourir en Sicile et il va se livrer à ses funérailles.
N'empêche, il me semble que dans la figure d'Aîné, on pourrait voir une image symbolique du poète qui est Virgile lui-même, entre Orient et Occident, entre Grèce et littérature latine à fonder, où il faut faire passer, où il faut opérer une translatio studiorum, une transmission de culture, une transmission de connaissances du passé vers un futur. Et la personne d'Aîné, qui précisément est en contact physique, il tient par la main, il porte sur son dos le passé et le futur, proposer d'ouvrir cette notion de patrimoine. Le patrimoine, c'est en fait seulement ce qui, a posteriori par les générations futures, est reconnu comme étant un passé qui mérite d'être transmis, ce qui nous écarterait peut-être de cette conception trop muséale du mot patrimoine, comme transmission figée.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous voulez, le mot que j'ai préféré dans ce que vous avez dit, c'est le mot dialectique. C'est-à-dire que, en effet, il y a nécessairement une dimension patrimoniale dans la lecture des auteurs anciens, mais que, pour ma part, on tient beaucoup à ce qu'elle ne soit pas dominante. C'est-à-dire que, il me semble qu'il faut lire les auteurs anciens comme des auteurs, comme des poètes, et leur œuvre comme une œuvre. Et non pas comme un témoignage archéologique. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas évacuer la dimension patrimoniale. Alors, je me suis exprimé avec une énergie un petit peu volontairement abusive. Mais il ne s'agit pas de mettre le feu au musée, ni aux cathédrales, bien que certains esprits pervers puissent envisager que ce ne soit pas toujours le hasard qui fasse ces choses-là. Mais enfin, il s'agit de mettre le feu nulle part, bien sûr. Il faut conserver. Mais il ne s'agit pas de conserver pour conserver. Il s'agit de conserver pour lire et pour avoir un rapport comme avec des œuvres. Un rapport, je ne vois pas d'autre mot, vivant.
Alors, ce qui est important, c'est que ce qui se cache derrière cette notion d'œuvre. Pas seulement patrimoine, mais qu'est-ce qu'on appelle œuvre ? Est-ce que l'œuvre inclut ? Et alors là, c'est un vaste débat qui réouvre encore plus vers la réécriture et la réappropriation différentielle. Alors, pour faire circuler un petit peu la parole, on suit un peu cette fausse chronologie. Daniel Robert, vous êtes aussi une traductrice du latin, donc aussi de ces grands anciens, de ces arrière-grands-pères de la culture, mais aussi de l'italien, de Dante, et même de l'anglais ou anglo-américain contemporain, la poésie de Paul Auster. Vous avez traduit pour l'essentiel l'œuvre d'Ovide, les Métamorphoses, les écrits érotiques, les lettres d'exil, pour lesquelles vous avez d'ailleurs reçu un prix de l'Académie française. Vous avez aussi traduit un Catulle que j'adore. Voilà, le livre de Catulle que j'ai emmené avec moi pour m'accompagner dans le métro. Et donc, comme je le disais, la poésie de Paul Auster, donc à l'autre bout de l'échelle. Ce qui va élargir aussi, nous permet d'élargir cette conception de la notion de patrimoine. Peut-être pas la laisser figer, justement, dans une assimilation au strict passé. Et vous êtes aussi distingué par une nouvelle traduction récente. Je dis nouvelle et récente, et ce n'est pas un pléonasme, parce que nouvelle, il y en avait d'autres, notamment celle de Jacqueline Risset, avec laquelle vous êtes quelque part en dialogue, donc de l'enfer et du purgatoire de Dante, paru chez Actes Sud en 2016 et 2018, si je ne me trompe pas. Et vous achevez, je crois, en ce moment, le paradis. Donc vous nous mettez en appétit. Alors, cher Daniel, voilà, est-ce que vous pourriez, pour introduire un petit peu à votre réflexion, nous lire ce que vous avez souhaité transmettre au public aujourd'hui ?
Oui, j'ai choisi deux extraits. L'un des Métamorphoses, un passage des Métamorphoses, donc vraiment dans le patrimoine, si on prend le mot au pied de la lettre, voilà. Et un extrait du Purgatoire, donc poésie médiévale également dans le patrimoine. Pour moi, c'est un peu un mot qui ne veut rien dire non plus, patrimoine. J'ai traduit Ovide, Catulle, parce que ce sont pour moi des êtres vivants, des poètes vivants, depuis qu'ils sont morts, depuis qu'ils ont publié. Et Dante est un poète vivant pour moi. Sa poésie n'a rien d'archaïque. Voilà. Donc, après, dans la traduction, il faut essayer d'être à la hauteur de ça et non pas moderniser ces textes. Ils n'ont pas besoin d'être modernisés. Ils sont modernes. Donc, les traduire, c'est montrer leur modernité par le travail qu'on propose. Et ça, c'est ça la difficulté.
On va revenir sur cette notion moderne, modernisée, après votre lecture. Voilà.
Tout d'abord, un extrait de Apollon et Daphné. À la vue de Daphné, Phébus est amoureux et veut s'unir à elle. Leurré par sa propre parole prophétique, il croit avoir ce qu'il désire. Et tout comme brûle le chaume tendre une fois les épis coupés, comme une haie s'embrase lorsqu'un passant en a trop approché sa torche ou l'y a laissé au lever du jour, ainsi s'enflamme le dieu dont le cœur tout entier se consume et nourrit d'espoir cet amour sans issue. Il contemple les cheveux qui tombent librement sur ses épaules et s'écrie « Que serait-ce si elle se coiffait ?» Il voit ses yeux brillants comme des étoiles. Il voit sa petite bouche et la voix ne lui suffit pas. Il admire ses doigts, ses mains, ses avant-bras et ses bras plus qu'à demi-nus. Ce qui reste caché, il l'imagine plus beau encore. Elle fuit. Plus rapide que brise légère, sans s'arrêter aux paroles qui la retiennent. « Je t'en prie, reste, nymphe du Péné. Je ne te poursuis pas méchamment. Reste, nymphe. L'agnel fuit le loup, la biche le lion, et d'une aile tremblante, les colombes fuient l'aigle. À chacun ses ennemis. Mais moi, je te poursuis parce que je t'aime. » Et donc là, c'est une poésie... ce sont des vers, mais des vers qui, évidemment, ne sont pas comptés ni rimés, puisque dans l'Antiquité latine, la rime n'existe pas. Le deuxième extrait, c'est un passage du chant 30 du Purgatoire. c'est le moment où Dante est entré dans le paradis terrestre, tout au sommet de la montagne du Purgatoire, et c'est là qu'il rencontre enfin Béatrice. J'ai déjà vu, au tout début du jour, la partie orientale toute rosée et le reste dans de sereins atours, puis naître la face du soleil ombré. Et comme la tempérait les vapeurs, le regard longuement la soutenait. C'est ainsi que dans un nuage de fleurs, qui des mains angéliques s'élevait et retombait dedans et à l'extérieur, sous un voile blanc, couronné d'oliviers, m'apparut une dame, ses vêtements couleur de flamme vive, de vert voilé. Et mon esprit, qui depuis si longtemps n'avait connu qu'en sa seule présence la stupeur, le tremblement, le brisement, sans que mes yeux en eussent connaissance par la vertu cachée qui d'elle émanait, de l'ancien amour, j'éprouvais la puissance.
Alors, merci beaucoup pour ces deux lectures. Donc, Ovide, Dante. Alors, justement, est-ce que vous pouvez...
Oui, j'ai juste oublié de dire que là, contrairement au poème d'Ovide qui est en vers non compté, non rimé, là, la poésie de Dante est rimée avec ce qu'on appelle la fameuse tierce rime, et elle est également elle est écrite en endécasyllabes italien qu'il faut transposer dans un mètre qui soit possible en français, qui n'est pas la même chose.
Alors justement, j'aimerais maintenant, pour qu'on poursuive la réflexion entamée avec les premières propositions de Dominique Buisset, vous dites qu'il faut donc moderniser la traduction.
Non.
Il ne faut pas moderniser la traduction. Et cependant, il faut pouvoir transmettre cette traduction à la modernité, si je fais la synthèse de vos deux affirmations. Oui. Alors, qu'est-ce que vous méditez, vous, exactement, derrière cette idée de moderniser, de ne pas moderniser la traduction et alors pourquoi? Et alors comment traduire pour la modernité? Il semble y avoir une contradiction.
Mais dans la mesure où ces poètes sont modernes, on ne les modernise pas, mais on en montre la modernité en étant au plus près de la forme qu'ils ont choisie pour écrire.
Qu'est-ce que vous mettez derrière moderne quand vous dites ces poètes sont modernes?
Eh bien, ils nous parlent encore aujourd'hui. Ils nous parlent après 2000 ans, après 700 ans. Et lorsqu'on les lit, on est ému, on est saisi. La rencontre de Béatrice, elle est émouvante. Celle de Apollon poursuivant Daphné, lui disant qu'il l'aime, c'est quelque chose que nous connaissons tous.
Donc c'est ainsi qu'on comprendrait que vous mettez derrière moderne plutôt le sens d'actuel. Toujours en résonance, j'entendais toujours vivant, ces poètes sont toujours vivants, donc c'est parce qu'ils résonnent encore, alors par des questions philosophiques, esthétiques, épistémologiques,
tout ça,
avec nos propres préoccupations.
Bien sûr.
Et c'est un peu ce que vous mettriez derrière cette notion d'œuvre, Dominique, quand vous protestiez tout à l'heure en disant « non, je ne suis pas vraiment du côté du patrimoine, mais c'est l'œuvre, je suis pour l'œuvre ».
Je ne suis pas tout à fait d'accord, tout à fait certain que c'était la même chose. Non, moi je dirais que modernes, ils l'ont été incontestablement dans leur temps. Et ça, on ne peut pas le leur enlever. Et de même que nous ne pouvons pas éviter de l'être dans le nôtre. Et il me semble que c'est cette qualité-là que nous devons retrouver chez eux, si nous en sommes capables. Mais il s'agit plutôt de lire l'œuvre. Si vous voulez, et bien sûr, elle produisait une émotion chez ses lecteurs, puisque quand Virgile lisait telle scène de l'Énéide, il paraît qu'une femme s'évanouissait parce que le poème racontait la mort de son fils. Bon, donc il y avait une réaction affective. Alors, moi, je ne dis pas que nous pouvons avoir la même réaction affective, mais nous pouvons avoir au moins une relation esthétique à l'œuvre.
Bien sûr,
c'est celle-là qu'il faut rechercher. Disons qu'il faut essayer de se donner le plaisir du poème en lisant Virgile.
Voilà, exactement.
Donc garder la vivacité de cette émotion, de ce pouvoir en fait, du retentissement émotif que le texte pouvait avoir, et autrefois, et qu'il maintient toujours. Mais vous avez aussi ajouté quelque chose. Dans leur temps, ils ont été modernes. À ce moment-là, moderne n'a plus tout à fait le même sens.
Non.
Oui, allez, Daniel, allez, on ne vous entend pas très bien. Parlez bien dans le micro.
Aussi bien qu'Atulle que Dante, que les poètes style noviste, étaient considérés à leur époque comme des poètes d'avant-garde. Ils apportaient quelque chose d'entièrement novateur.
Alors, c'est très important ce que vous souhaitez là, souligner là. En effet, Catulle, que vous avez traduit, le jeune Virgile, avant de faire les Éides, le jeune Virgile des bucoliques ou même des poésies qu'on lui prête, mais dont on n'est pas sûr de l'attribution, Ovide faisait partie de ce qu'on appelle les poetae novi.
Oui, Ovide est un petit peu plus... vient un peu plus tard. Mais oui, bien sûr.
Donc, en fait, si je... J'essaie de rassembler pour progresser dans notre réflexion commune. Ce que vous entendez, donc, ce qu'il faut essayer de garder de ces poètes, de transmettre, de faire revivre pour les maintenir toujours vivants. Aujourd'hui, dans notre temps d'aujourd'hui, c'est la modernité en tant que la possibilité aussi de rupture esthétique qu'ont pu représenter ces poètes dans leur temps. Ou même la façon dont eux-mêmes ont fait le lien entre le passé... et le futur, comme même des traducteurs.
Bien sûr. Oui, je suis intéressé par ce que vous dites, mais une fois de plus, je ne vais pas être tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la modernité, il ne me semble pas qu'elle doive nécessairement résider dans la rupture esthétique. Hein, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Elle peut naturellement résider dans la rupture esthétique. Mais moi, je ne suis pas seulement intéressé par le jeune Virgile, je suis intéressé par le vieux Virgile. Enfin, il est mort à 51 ans, c'est-à-dire que je suis plus vieux que lui. Mais je suis intéressé par le vieux Virgile, celui qui écrit l'Énéide, celui qui écrit un poème pour exalter la grandeur de Rome et d'Auguste. Il m'intéresse en tant que tel, parce qu'on peut lui reprocher peut-être d'avoir soutenu un régime pourri. Ça, il n'y a pas de doute sur le fait que le régime était pourri, c'était une dictature militaire. Mais en tant que poète, c'est quelque chose, ça tient la route. Hein ? Et donc, je ne veux pas le juger idéologiquement, je veux dire ou faire partager mon bonheur à le lire.
Mais le vieux Virgile est l'héritier du jeune Virgile.
Absolument.
Il est devenu ce qu'il est devenu en écrivant l'Énéide parce qu'il avait été le jeune Virgile.
Absolument, ça je signe.
Alors, on comprend très bien... Et vous me réjouissez justement par les compléments de remarques que vous apportez, à quel point précisément cette notion de modernité qui titre notre panel est complexe. Recouvre en fait... recouvre en tout cas une polysignifiance. Elle est suspecte si on la réduit à une seule signification. Et en réalité, ce que manifeste votre pratique de traducteur et de poète, c'est que deux formes de modernité se manifestent dans votre traduction ou dans votre désir de traduction. C'est la modernité au sens d'une possibilité de résonance toujours actuelle, d'une spécificité poétique qui n'est pas forcément rupture avec. Donc on ne réduit pas forcément moderne à moderniste, dans le sens des avant-gardes. Hein. Moderne peut donc être une spécificité, donc une voix, un travail de l'œuvre tellement particulier qu'il continue de nous parler parce qu'il permet des réappropriations aussi peut-être successives. Et là, pour continuer le dialogue, eh bien je proposerai justement d'interroger Jacques Darras par rapport aux extraits qu'il a choisis et dont... Si tu veux bien nous lire.
Vous voulez que je lise d'abord ?
Ben, comme ça, tout le monde se met dans l'oreille la voix des écrivains avec qui tu dialogues et puis ta propre voix.
Je lis donc un extrait d'un poème qui s'appelle, dont le titre est « Invention du poème parlé-marché sur la route d'Eupen ». Eupen est une petite bourgade dans la partie germanophone de la Belgique, c'est-à-dire à quelques distances d'Aix-la-Chapelle. Et ce poème, je l'ai choisi, il est extrait d'une anthologie parue en 2016 dans la collection Poésie dans la collection Poésie Gallimard, et qui a pour titre « L'indiscipline de l'eau ». Bon, ça fait beaucoup de titres. Je passe au poème. Donc, c'est là, je l'ai choisi parce que c'est le plus whitmanien des poèmes que j'ai écrit jusqu'à ce jour.
Eh oui.
Marque des chaussures, Méphisto, tige ferme, semelle souple de caoutchouc denté, lacets tenus par des ferrures, comme des chaussures de ski sans les attaches. Tu essaies, tu rebondis sur l'asphalte. Quelle est la direction ? Le quatrième côté de la Belgique, la forêt vers l'Allemagne. Où es-tu à l'instant ? En altitude moyenne, sur la route de Jalais. Que vois-tu ? Je vois à perte de vue le plus romantique des paysages, c'est-à-dire collines d'herbes neuves émaillées de fleurs, bosquets de sapinois, c'est-à-dire encore, c'est-à-dire grandes frondes de couleurs vertes bleuies par proximité du ciel. Pourquoi es-tu là ? Parce que j'ai l'intention de franchir la frontière par la nuance. Les frontières sont tout sauf nuances. Les frontières sont cessations. Je veux vivre dans le pléonasme d'une cessation nuancée. Le ciel avec l'herbe. Quel lien ! Invoquons Rimbaud, si tu veux bien. J'aime la carotte sauvage. Cela ne fait pas un exotisme convenable. Une nation de talus me suffirait, une nation de fagnes, de petites rivières. Le petit est une calamité, les Belges haïssent la Belgique. Musicien des ombellifères, concertiste en jacinthe bleue, quelle profession. Il faut sortir du romantisme, proclamer-tu naguère. J'en sors, avec les chaussures Méphisto, la bonne pointure. Le pacte ne concerne-t-il pas la main qui écrit, plume directement au sang ? J'écris avec les pieds, pacte ma semelle sur le sol. L'élastique rebondit. Oh, c'est pas tout à fait une invention. Walt Whitman transposé à l'Europe, oui, mais l'Amérique n'a pas d'horizon. Je me considère nouvel immigré d'Europe. Je rentre au pays par la marche. Schubert, Schumann, le chant du ruisseau, la meunière son moulin.
Merci Jacques. Alors vous m'aviez indiqué en regard de voir Walt Whitman. Effectivement, la notion de patrimoine, comme celle de modernité, selon ce qu'on vient de dire, se déplace complètement.
Alors, je vais être bref, parce que je pense exactement la même chose que Dominique Buisset et Daniel Robert. Je serais même plus brutal qu'eux, parce que, étant plus court et pris par le temps,
vous avez du temps.
Je dirais ceci, je déteste le mot de patrimoine, mais véritablement, je considère que c'est un terme du langage bureaucratique culturel. Et il traduit, s'il traduit quelque chose, je crois qu'il traduit notre malaise actuel, malaise dans la civilisation occidentale en particulier, il traduit notre malaise vis-à-vis du passé. C'est-à-dire que nous sommes atteints d'une sorte de muséification du passé. Nous ne savons plus quoi faire très bien avec le passé. Donc, nous avons tendance à le figer, à le bloquer, à le stocker. Nous avons un problème de stockage d'informations. Et c'est considérable dans la société contemporaine. Nous ne sommes qu'au début du stockage de l'information. D'une certaine manière, nos ordinateurs sont pleins de stocks d'informations. Et donc, nous sommes littéralement envahis. Il y a une forme d'invasion du passé. Et donc, nous appelons ça patrimoine de manière à justement en disposer. Quant à la modernité, je répondrai de façon oblique. Je pense que c'est un problème typiquement français, je dirais même franco-français, en poésie particulièrement, mais pas simplement. La modernité, c'est une invention française au XVIIe siècle. Vous voyez que ça remonte à déjà quelque temps, la modernité. XVIIe siècle, il y a cette fameuse querelle qui éclate dans la vie littéraire sous Louis XIV, qui est entre ce qu'on appelle les anciens et les modernes. C'est très sympathique, ça fait vivre le monde littéraire. Et alors, quand on cherche d'un peu plus près, on se dit, mais dans le fond, à l'époque, qui étaient les anciens et qui étaient les modernes? Alors, vous ne trouverez pas étonnant du tout que je me range du côté des anciens, car les anciens avaient nom Racine, Boileau, La Fontaine. C'est bien comme anciens, c'est des modèles qui sont tout à fait sympathiques, vous êtes bien d'accord avec moi. Et alors, je cherche quel était le moderne en face, car finalement, il n'en reste plus qu'un dans nos mémoires, c'était Perrault. Ah, j'adore les histoires de Perrault, vous aussi, les contes de Perrault. Mais il n'empêche que donc ce conflit entre ancien et moderne, disons que je préfère ancien ou tradition à patrimoine, que je trouve un terme absolument inapproprié, inapte, mais inapte totalement à la littérature. Quoi de plus vivant que les mots, en vérité? Les mots vivent, simplement, c'est ce que vous avez dit. Les mots sont vivants et donc ils sont toujours présents, ils sont toujours contemporains. Et si j'ai sacrifié au patrimoine, et j'arrête là, et c'est tout récemment, en rassemblant pour la première fois dans la collection Poésie Gallimard également, je fais la publicité en passant, et donc dans cette collection, j'ai rassemblé la première anthologie de poètes médiévaux français du XIIIe siècle, mais du nord de la France, et que j'ai intitulé cette anthologie « Du cloître à la place publique ». Et j'ai essayé de traduire ces poètes médiévaux, donc 1250, 13e siècle, de les rassembler, d'abord ils n'avaient jamais été rassemblés, de montrer qu'ils faisaient un massif originaire de la poésie française, bien avant Villon, 200 ans avant Villon, tous les thèmes de Villon sont abordés 200 ans avant lui, et de les adapter à notre français, je ne dirais pas moderne, à notre français actuel, de permettre qu'il soit lu par un honnête homme, un honnête lecteur du XXIe siècle. Donc voilà mes petites réflexions en marge, outre, et je termine par ça, car ça a été légèrement esquissé par Bénédicte. C'est vrai qu'ici, je me sens un tout petit peu isolé. Je suis en face de trois Méditerranéens et je suis le seul représentant du Nord.
Alors, merci, Jacques.
Non, moi, je tiens à émettre une protestation féroce. Je suis né à Lille, mes enfants. Alors, il peut s'aligner comme méditerranéen, hein, celui-là.
Bon, mais tu vis à Marseille.
Oui, ben, je vis à Marseille actuellement, mais m'y suis picard, et je parle picard, hein, autant que toi. Allez.
Je vous en prie. Bon, ce qui prouve bien que vouloir localiser les auteurs n'est pas très productif dans la réflexion esthétique. Alors, je voudrais tout de suite rebondir avec Philippe Dimeo sur une réaction de Jacques, qui dit mais la modernité, le conflit, enfin l'opposition patrimoine-modernité, c'est quelque chose de très franco-français. Oui. Et Philippe Dimeo, précisément, par rapport à votre pratique de traducteur des poètes italiens contemporains, vous allez nous permettre justement cette mise en perspective de l'interrogation du titre de notre table ronde qui est peut-être très franco-français et qui est peut-être moins pertinent par rapport au corpus qui est le vôtre et qui est la traduction non des poètes, notamment contemporains italiens. Alors avant de vous donner la parole, comme pour tout le monde, une petite présentation hein, pour qu'on vous situe. Alors Philippe, vous êtes donc écrivain et traducteur, notamment donc traducteur donc d'Andrea Zanzotto. Donc vous avez transposé en français, enfin transposé, traduire, j'hésite même sur le mot parce que la traduction peut être créatrice, on va revenir là-dessus aussi. Donc de très nombreux livres, hein, et vous avez notamment coordonné un numéro spécial consacré à Andrea Zanzotto de la revue Nu en 2016, donc le numéro 58. Mais vous, évidemment, vous n'êtes pas limité à Andrea Zanzotto, même si c'est ce qui a fait votre notoriété, vos nombreuses distinctions. Hein. Vous avez aussi fait découvrir d'autres poètes italiens, donc contemporains, vivants, qui ne sont pas forcément en lecture et donc qui ne sont pas forcément portés à la connaissance d'un public français. Voilà un petit peu pour la présentation. Alors, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous pourriez apporter comme mise en perspective du point de vue de ces poètes italiens contemporains que vous mettez en lecture sur ce rapport patrimoine-modernité qui semble un débat français qui est vécu avec une certaine violence en France régulièrement. Et est-ce qu'on le retrouve dans la poésie italienne avec les mêmes données ou pas du tout ?
C'est une question complexe. Je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec mes prédécesseurs pour dire que la notion de patrimoine est une notion purement administrative, mais qui a également à voir, je crois, avec le problème que Jacques Darras appelait le stockage, avec la rencontre de la technique, la rencontre d'une pratique culturelle et de la technique qui dépouille finalement les pratiquants, les écrivains de quelque chose. Dans le domaine italien, pour recentrer ma réponse sur votre question, le problème se pose tout à fait différemment, dans la mesure où le public lettré italien a la mémoire des origines, a voulu conserver la mémoire des origines, dans la mesure où, à l'origine de la tradition italienne, on trouve Dante, Pétrarque et Boccace. Par conséquent, en Italie, c'est une tradition qui n'a jamais opposé la mémoire et l'innovation. Au contraire, la mémoire a constamment nourri l'innovation, à tel point que le processus d'autorisation de la parole, en Italie, jusqu'à il n'y a pas longtemps, voyons Giorgio Manganelli, Carlo Emilio Gadda, est la citation. Et par conséquent, il n'y avait pas du tout d'opposition historiciste ou historicisante. Et le monde de la technique a un peu ébloui et perturbé le champ littéraire en introduisant une forme d'historicisme dans la pensée de l'objet littéraire à travers l'avant-garde. L'avant-garde, c'est la raison dans la littérature, comme c'était la raison dans la politique qui nous a donné à la fois le nazisme, le fascisme. Donc il n'y a pas d'historicisme, il n'y a pas l'œuvre littéraire est une œuvre fondamentalement symbolique, qui joue sur le symbolique. Le symbolique n'est pas historicisable. Le symbolique est par-delà l'histoire. Je ne sais pas si je suis clair.
Oui et non. Oui. Oui et non, parce que il est par-delà l'histoire. Du moins c'est sa prétention. C'est son idéalisme au symbolique, si je puis me dire cela, qui paraît être une contradiction. Mais il n'empêche qu'il est marqué par l'histoire, qu'il est historicisé malgré lui, d'une certaine façon. Le symbolique médiéval n'est pas le même que le symbolique contemporain.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pas contradictoire. Je le ressens pas du tout comme contradictoire. Et par conséquent, ce qui m'a fasciné dans l'œuvre, par exemple, d'Andrea Zanzotto, mais aussi de François Rabelais, c'est la capacité de reprendre une tradition, une tradition précédente, antérieure, et d'en faire finalement une seule syntaxe. C'est ce que j'ai appelé des écrivains ou des poètes généalogiques, c'est-à-dire cette capacité qu'ont, à certains moments dans l'histoire, à la fois des écrivains et des poètes, de reprendre les syntaxes précédentes qui sont historicisées et matérialisées dans des styles qui d'ordinaire s'excluent, pour marier tous ces styles, pour en faire une seule et même syntaxe. C'est le cas de Rabelais vis-à-vis de la littérature médiévale. C'est le cas d'Andrea Zanzotto, qui reparcourt toute la tradition italienne, en fait occidentale, à travers l'italienne, pour en faire quelque chose de nouveau. Et c'est ce que j'ai appelé les écrivains généalogiques, dans lesquels on inclut par exemple un Pessoa, mais également un Joyce, qui en fait reparcourt pour rafraîchir une tradition qu'il sent vieillissante et harassée par les stéréotypes et par des stylèmes et par la répétition, de la rajeunir précisément par une grande syntaxe synthétique qui résume toute une histoire pour lui donner un futur.
Alors, pour illustrer votre propos, vous m'aviez pister vers un texte que vous aimiez beaucoup et donc qui pourrait servir voilà, d'illustration.
Je voudrais en dire un mot, s'il vous plaît, avant votre lecture. C'est dans le texte que va lire Bénédicte Gorillo, c'est un texte d'Andrea Zanzotto que j'ai intitulé en français « Saint-Gall veille sur notre sommeil », qui possède un titre en dialecte vénitien en italien, « Saint-Gall sora la sonne », le sommeil est féminin en italien, en dialecte vénitien. Ce texte développe une poétique de la mendicité. La mendicité, c'est précisément cette capacité à prélever dans des âges stylistiques apparemment hétérogènes pour en faire une seule et même syntaxe.
Je vous en prie, Philippe. J'aurais presque envie de vous laisser d'abord lire en italien.
Je ne sais pas lire.
Alors, donc, comme moi-même, je ne peux pas lire l'italien, le parlant très mal, je vais me contenter de la traduction française, très belle, de Philippe. Saint-Gall veille sur notre sommeil. L'un de mes parents, ermite, avec lequel je me suis plus que partiellement identifiée, en écrivant le long poemetto Bille, fut le dernier de tes compagnons dans l'auscultation de certains systèmes du silence, de certaines micro-vocalités stellaires, dans la petite cellule suspendue, là-haut, tout là-haut, au plus haut des collines ailées. Mon cher parent descendait au village, apportait des nouvelles du Sanctus Gallus, très proche et néanmoins égaré comme en des gouffres de perspective. Par la suite, on le dirigea vers la maison du repos. En bas, dans la plaine, on lui ôta de son dos son précieux sachet, où, qu'étant beaucoup, il accueillait ce qui est bienveillant chez notre prochain pour en tirer des profits démesurés parmi les célestes caveaux. Sant'Egale, désormais, par terrasse de rêve, de surrêve, point toujours ensoleillé, mais point toujours pluvieux, glissant, et néanmoins toujours de neige conscient, c'est vers toi que je monte, parfois, vers toi qui accorde aux enfants irrités, aux nouveau-nés encanaillés, le sommeil minimal, coquin, qui en vertu de ta grâce incline ensuite leur petite tête sur le cou de maman et sourit à son sourire chacun comme dans sa quatrième bucolique, comme dans le pressentiment de tout événement le plus extraordinaire, oh là, alors là, j'achoppe sur une invention verbale, le plus extraordinaire et le plus rasséréné.
Merci pour cette très belle lecture. Dans ce poème, vous voyez qu'il y a à la fois une évocation de la littérature antique à travers Virgile, qu'il y a à la fois du dialecte de Vénétie, pas vénitien, mais de Vénétie, et du latin, par exemple.
Oui, alors
des créations verbales propres à Andrea Zanzotto.
Alors là, c'est pour ça que, infiniment merci Philippe, de nous avoir suggéré ce texte pour alimenter la réflexion par rapport à votre propre pratique. Parce que là, on voit à quel point effectivement les catégories de patrimoine et de modernité, telles qu'elles peuvent être parfois avec facilité frontalement opposées, en présupposant des définitions simplistes, ne tiennent plus.
Oui. Le patrimoine, si on reprend cette définition bureaucratique, comme l'ont signé les précédents intervenants, est ici identifié au sachet, à ce que nous sommes capables de nous saisir, de nous approprier de l'immense prolifération du créé. Donc le patrimoine, entre guillemets, notion bureaucratique, n'est pas à l'extérieur de nous, ce n'est pas une chose. Il est également en nous. Nous sommes également pétris, nés dans une culture à une certaine époque, avec certaines lectures, certains goûts qui nous ont été communiqués par certaines œuvres, certains monuments, certaines pratiques. Le patrimoine nous informe. Il n'est pas à l'extérieur de nous, ce n'est pas une chose.
Alors,
me semble-t-il aussi.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de souligner, c'est cette notion, sachez comme s'il y avait une réduction à une toute petite chose, à un reste, par rapport à un tout perdu, comme si le patrimoine d'abord n'était que constitution par celui qui le reçoit, donc presque dans un geste phénoménologique, comme s'il n'existerait que par l'attention de celui qui le reçoit. Et donc, première chose. Et deuxième chose, dans cette constitution par celui qui le reçoit, donc il n'existe pas indépendamment de nous, puisqu'il dépend des mots qui le créent, qui l'en font exister. Et deuxièmement, ne peut exister que dans la notion d'une perte. Le patrimoine n'existerait que dans la notion d'une perte. Et là, Daniel, il me semble que vous avez une très belle définition du traducteur par rapport à cette notion de perte. Traduire, c'est conserver la perte. Oui, dans un tweet, j'essaie d'être moderne et pas tout à fait brontozoïque, malgré mon amour des Grecs et des Latins. Le 26 décembre 2018, sur France Culture, vous parlez de la traduction du purgatoire. Non, c'est pas conservé. La traduction est un art de la perte. Mais il faut savoir accepter de perdre quelque chose au profit d'un autre chose qui va être un gain pour le texte. Alors, il m'a semblé que cette phrase, je vous la jette un peu en pâture à vous tous, mais touchait quelque chose d'essentiel précisément dans vos gestes de traducteur. Et aussi pour continuer, je ne vais pas dire d'enfoncer la définition cliché du patrimoine, mais pour montrer à quel point ce mot, si jamais on doit continuer à l'utiliser, recouvre en fait une notion très complexe, qui n'a rien de figé, qui n'a rien de muséal. Philippe, vous voulez réagir?
L'essentiel,
avant,
c'est le figé. Je voudrais rebondir sur la remarque qu'a faite Jacques Darras tout à l'heure sur ces figures symboliques, effectivement, sont historiques, qui ne sont pas les mêmes. Elles ne se répètent pas à l'infini, il n'y a pas une répétition à l'infini du même. Ça, nous sommes bien entendu d'accord. Dans l'expérience des écrivains généalogiques, ce qui est assez fascinant, ce sur quoi quelqu'un comme Andrea Zanzotto, qui est fascinant à cet égard, a mis le doigt dessus, c'est la notion d'idiome. C'est une langue. Beaucoup d'écrivains ont conçu leur art comme l'aboutissement d'un sublime, à une certaine époque, d'une langue. Zanzotto, dans Idiome, dit et démontre par ses poèmes que c'est une prétention oiseuse dans la mesure où les langues s'affirment, se développent et en même temps s'effondrent. On a parlé du latin, du grec, etc. Donc la langue est elle-même un organisme mouvant qui autorise précisément des dérives généalogiques comme celle de Rabelais, comme celle de James Joyce, comme celle de Pessoa, qui a distribué les différents styles à différents hétéronymes, ou celle d'Andrea Zanzotto, qui les a concentrés en raison d'une tradition plurilinguiste italienne dans une seule œuvre. Donc la langue est elle-même un organe soumis à l'usure.
À la perte.
À la perte. Mm-hmm. et la redécouverte. La redécouverte en même temps. Il n'y a pas que perte, il y a redécouverte. Il y a constamment perte et redécouverte.
J'ajouterai une petite note, un codicille à ce qu'on disait, sans vouloir revenir sur la notion de patrimoine hors de laquelle nous sommes en train de dériver, à mon sens, à juste titre. Je trouve peut-être que cette notion de patrimoine est trop peu, nous fait trop penser au père, c'est-à-dire à la loi, à ce qui est, et que le poète est précisément celui qui a affaire avec la langue maternelle. De sorte qu'en face du patrimoine, j'aimerais bien promouvoir le matrimoine, en quelque sorte. Car si vraiment il y a quelque chose de sensible chez le poète, chez tout écrivain bien évidemment, mais plus encore chez le poète qui est un linguiste spontané, un linguiste naturel, c'est véritablement l'usage qu'il doit faire de la langue maternelle. Et pour commenter sur ce que disait, sur ce que dit Philippe Dimeo, est-ce qu'il ne pense pas que l'histoire, je suis un farouche partisan de l'histoire en quelque sorte, et est-ce qu'il ne pense pas que l'histoire de nos pays respectifs, à savoir l'Italie et la France, mais aussi l'Angleterre d'un autre côté, pour ce qui me
j'ai
concerne.
J'ai pas de pays pour ma part. Hein? J'ai pas de pays pour ma part. Je les rejette
non,
tous.
Non, 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 mais ça, on est d'accord. Il n'y a pas de pays. N'empêche que, à propos de Sanzotto, puisque votre nom est quand même associé à Sanzotto, il écrit, vous l'avez dit, dans le dialecte, enfin, il utilise beaucoup le dialecte de Vénétie. Il y a des structures historiques différentes entre un pays comme l'Italie, où les régions et les langues dialectales sont restées extrêmement vivaces. Il suffit de voir la politique actuelle italienne pour voir comment la Ligue du Nord a du mal à s'imposer au Sud, du moins s'est imposée au Sud. C'est quelque chose d'assez peu concevable en France, où nous avons eu tellement une homogénéité, une uniformisation de l'histoire nationale, que là, il y a des perspectives totalement différentes, en quelque sorte, entre les langues et entre les pays.
Oui, oui.
C'est la même chose pour l'Angleterre, où il n'y a pas de problème avec le Moyen-Âge en Angleterre. Je termine. Oui. La preuve, c'est que la forme décasyllabe qui est héritée de Chaucer, par des Français, du poème héroïque français, et qui passe à Chaucer en 1400, eh bien, elle sert toujours à un poète caribéen prix Nobel, Derek Walcott, qui écrit toujours en décasyllabes. Il n'y a pas de rupture, en quelque sorte, dans la forme entre 1400 et 2021 en Angleterre, alors qu'en France, on ne peut pas dire la même chose. Donc, il y a vraiment des stases historiques qui sont absolument considérables, mais qui n'empêchent pas la langue d'être un continuum vivant.
Dominique Buisset, vous vouliez ajouter quelque chose de...
Oui, la langue est un continuum vivant, c'est vrai, mais ce qui coule change aussi. Il n'est pas, je ne sais pas, je ne peux pas répondre pour ce qui est de l'anglais, mais enfin, je constate qu'on ne lit pas facilement l'ancien français. Je ne sais pas si on lit facilement l'anglais médiéval, mais... Je voudrais dire autre chose, pour ma part. C'est que, si on prend l'exemple de Rabelais, il n'a pas seulement un héritage, Rabelais. Il emploie tous les mots de sa langue, c'est-à-dire les mots qui existaient depuis longtemps, et puis il en crée des mots. Et dans le patrimoine d'une langue, il y a bien des choses, du point de vue lexical, que justement, on n'utilise peut-être pas assez dans l'écriture. Je m'explique. Peut-être qu'il faut, je dis peut-être, et je ne sais pas si je vais le tenter ni si j'y arriverai. Ça, c'est un autre problème. Mais peut-être qu'il faudrait traduire Virgile ou Ovide ou Pindare en utilisant tout le patrimoine lexical du français, c'est-à-dire en ne se contentant pas du littré, mais en utilisant aussi les mots de San Antonio, ou bien des gens qui font des dialogues de films. C'est-à-dire qu'il y a tout un vocabulaire qui, en général, est rejeté parce qu'il est malpensant, parce qu'il est grossier, parce qu'il est vulgaire. Je ne dis pas qu'il faut employer des gros mots, mais disons qu'on écarte tout un vocabulaire qui est classé comme familier. Or, je demande à voir, moi, ou plutôt, je vois dans Virgile, que le vocabulaire n'est pas sélectionné de cette façon. Et je trouve dans Virgile des citations de Plaute, un auteur comique, hein, qui l'a précédé de 2 siècles. Alors je me dis, mais pourquoi moi, si Virgile cite Plaute, pourquoi moi je ne citerai pas San Antonio ?
Je vais te dire, moi, dans la traduction de Whitman, dans les feuilles d'herbe, puisque tu as fait allusion à ta naissance picarde, j'ai employé 2 termes picards. Se souvenir
bravo,
en picard.
Bravo.
Se souvenir en picard, ça se dit se ramaintevoir. Je me ramainteuve. Ça veut dire je me remets dans l'esprit, mince.
Oui, mais c'est du français médiéval, ça aussi. Ça existe dans l'ancien français, pas seulement dans le picard.
Alors, beaucoup plus précis encore, être enchepé. Quelqu'un qui est enchepé, c'est quelqu'un qui a les pieds pris, il ne sait pas comment faire pour avancer ou reculer. Et donc, ah ben, je suis enchepé. Et donc, ça, voilà. C'est... Et ça, c'est dans la traduction de Whitman.
Je te félicite, Jacques. Je te félicite.
Donc, je réponds à tes critères.
Et vous posez...
À certains d'entre eux.
Vous posez tous ensemble, en fait, une question essentielle, effectivement, celle d'être soumis. Tu proposes plutôt le matrimoine plutôt que le patrimoine, mais le matrimoine peut être encore très dictatorial. Et le matrimoine peut être sélectif et précisément faire taire les dialectes, faire taire
merci,
les différents
madame,
niveaux
merci.
De langue.
Nous, oui. allons d'une certaine façon vers un équilibre et une parité entre le patrimoine et le matrimoine. Et donc on va essayer d'égaliser tout cela.
Mais le sens de ma remarque, c'était d'observer dans les différentes traductions, par exemple, que j'ai pu lire des uns et des autres, comme une tendance contemporaine qui est précisément de ne plus se censurer sur les niveaux de langue. Et là, bon, on renvoie à toutes les théories modernes de la traductologie, depuis Klosowski, en passant par Berman ou Ricoeur. Il faut entrer dans la forme, il faut respecter le signifiant. Les uns et les autres, dans vos différents parcours, j'ai vu un moment ou un autre arriver cette formule. Et donc respecter le signifiant, bah, c'est effectivement respecter le heurt des niveaux de langue, des styles. Donc, Daniel, vous l'avez particulièrement affronté, vous, avec Catulle. Alors, on les fait rire un peu, hein? Vous vous doutez de l'épigramme ? Ben, la 16. En rappelant comment cette épigramme était traduite. Et là, ce respect de la variété des langues, et de l'invention verbale aussi, pour essayer de coller à l'invention verbale de l'auteur, vous dans Zanzotto, paraît essentiel pour laisser l'actualité du patrimoine. Parce qu'on peut faire vieillir quelqu'un, on peut le faire mourir. Et par exemple, je parle pour mes Grecs et mes Latins, on les a fait mourir en les traduisant avec les traductions jésuitiques peu désincarnées.
Ce que vous disiez, Dominique, à ce propos, ce n'est plus, ça ne se passe plus maintenant. En traduction, maintenant, on n'a pas cette espèce de
censure,
oui, au nom des bienséances. Non, ça fait quand même une bonne trentaine d'années.
On a encore un vocabulaire relativement restraint.
Bon, alors,
c'est vrai.
On va voir.
Cas concret avec Daniel.
Je suis désolée, mais je vais y aller.
Elle va dire des horreurs.
Je vous en foutrais plein le cul et la bouche, Aurelius la lopette et Furius l'enfoiré, qui m'avaient accusé, à cause de mes petits vers un peu lestes, d'être licencieux. Le poète authentique doit être vertueux pour lui-même, mais nullement dans ses écrits, car ceux-ci n'ont de sel et de charme que s'ils sont un peu lestes et licencieux, capables d'exciter là où ça les démange. Je ne dis pas les enfants, mais ces hommes poilus pour qui le coup de rein est chose difficile. Et parce que vous avez lu dans mes livres des milliers de baisers, vous vous imaginez que je suis un faux mâle ? Je vous en foutrai plein la bouche et le cul.
Alors, merci pour cette traduction vigoureuse. Alors, pour que vous mesuriez l'enjeu, Daniel... Dans le texte latin, on a pedicabo ego, c'est irum abo. Pedicabo,
oui,
ça veut dire
enculé.
Oui. Hein,
oui.
Et irum abo,
c'est violé par la bouche.
Voilà, obligé à sucer ou obligé à tailler une pipe. Quoi.
Voilà, exactement. J'ai employé l'expression dans une autre épigramme.
Voilà.
Et la même qui taille des pipes.
Voilà. Et alors, il faut attendre donc seulement 20, oui. Il y a 20 ans ou 30 voilà. ans. Oui. Je crois que c'est Florence Dupont avec Thierry Éloi qui les premiers ont osé.
Théorisé
et surtout oui. un éditeur. Oui. Parce qu'il ne suffit pas que l'auteur le désire, il faut qu'un éditeur le suive. Oui, un sûr. Éditeur a accepté
oui.
la publication. Ce qui pose encore une autre question. Jusqu'où les éditeurs sont-ils prêts à aller pour suivre, je dirais, le foisonnement polylinguistique, polystylistique des auteurs qu'on leur propose? Vous voulez réagir, Dominique?
Oui, je voudrais dire que j'apprécie beaucoup la traduction qui vient d'être lue. Mais je voudrais dire en même temps que Catulle est un poète extrêmement divers. C'est-à-dire qu'il a certes écrit des épigrammes de ce style, mais il a écrit aussi des poèmes délicats, absolument. Longs, et dans un style radicalement différent. Et donc, si vous voulez, si j'approuve le fait de traduire ce qui est écrit, c'est écrit dans le texte, donc il faut que ce soit écrit en français. Donc j'approuve entièrement cette traduction. Mais la question que je posais, c'est qu'est-ce qu'on... c'est d'être plus libre lexicalement et syntaxiquement pour traduire les poèmes hellénistiques, les poèmes qui sont, eux, des poèmes raffinés. Alors, je ne dis pas que... Bien sûr, j'approuve ce type de traduction, mais comment faire pour se donner de la liberté sans vulgariser le poème quand on a affaire à un poème d'un grand raffinement ? C'est là toute la difficulté. Et c'est là que je trouve qu'il faut varier le vocabulaire. Si vous voulez, c'est pas... bien sûr, on va pas avoir peur d'employer con et bite. Enfin, c'est pas le problème. Hein, si vous voulez, ça me paraît un peu réducteur de choisir un peu trop facile de prendre cet exemple-là. Je voudrais qu'on ait de la liberté et de l'éventail lexical ouvert dans ce qui est une langue soutenue, où il n'est pas question de cochonnerie.
Je crois qu'on est tous d'accord. Il ne s'agit pas de réduire un auteur à une pièce. Oui. Mais c'est juste un exemple donné parce que c'est peut-être ce type de pièce qui a été le plus victime de censure. Et vous rappeliez, Daniel, la traduction qu'adopte encore Georges Lafaille pour la collection des belles lettres, hein, où il traduit Roumabo, je vous donnerai des preuves de ma virilité.
C'est ça, pour je vous en foutrai le
plus. Voilà, ouais. voilà. Donc, on va laisser la parole au public pour qu'il puisse vous poser des questions. Je dirais juste, là se pose une vraie question éthique. Je veux dire, Catulle, on l'a fait mourir parce qu'on a rendu on a coupé son texte de précisément la variété linguistique qui fait qu'il peut encore parler aujourd'hui. Pour mon expérience personnelle, quand je donne à traduire ça à mes étudiants, ils sont sidérés, ils me disent « Mais les latins, c'est pas que des mecs complètement compassés et triqués qui font un discours sur les statues de Verès. » Enfin, non, ils découvrent qu'ils sont aussi dans un débat avec une forme de violence, d'interrogation esthétique, de conflit esthétique. La même épigramme est soigneusement scandée avec des traits de virtuosité alexandrine, ce qui la coupe de toute vulgarité. Voilà. Quelqu'un d'entre vous voudrait ajouter un dernier mot avant de laisser la parole au public? Philippe?
Oui, très brièvement. Pour Bouissou, il est entendu que Rabelais... En amalgamant, par exemple, la tirade de l'écolier Limousin, c'est-à-dire du patois, des registres plus anciens, crée quelque chose. Ce n'est pas simplement une attitude pieuse vis-à-vis de quelque chose qui préexistait, c'est une pure création. Quant à ce que disait Jacques Darras, évidemment, les traditions littéraires évoluant dans des langues différentes ont des traditions différentes. Par exemple... les réformes dues aux grammairiens cartésiens, l'Académie, etc., ont exclu un certain nombre d'œuvres jusque de l'enseignement. Par exemple, qui lit Maurice Sève? Où enseigne-t-on Maurice Sève, par exemple? Mais ça n'a pas empêché, par exemple, un poète qui n'occupe pas la place qui devrait être la sienne en France, c'est Jude Stéphan, qui est un poète généalogique, justement. Qui est capable d'innover et d'inventer une poésie à la fois par ses propres trouvailles, mais aussi en se penchant sur l'école lyonnaise, sur Maurice Sève, etc. Voilà, je suis très bref.
Et sur le latin, car il latin. Me semble que Jules Stéphan est le
traducteur de Catulle,
le plus latinisant des poètes français
bien
contemporains
sûr.
De loin. Bien sûr. Maurice, pour répondre à votre question, eh bien, je sais qu'on le lit à New York University, NYU.
En Italie.
NYU.
Grâce à vous.
Oui, dans la mesure où il est traduit en anglais, très bien traduit par quelqu'un qui s'appelle Richard Siebers et qui l'a traduit de la même façon qu'il traduit toute la poésie érotique du XVIe siècle. Et donc, non, mais il n'y a pas à désespérer de ce côté-là, quoi. Il y a véritablement, à chaque époque également, des gens isolés qui redonnent vie, qui font courir l'étincelle de la poésie. Et la dernière chose que qui m'importait de dire, c'est que la plupart d'entre nous, traducteurs, sommes aussi traducteurs parce que nous sommes intéressés par les traditions, c'est-à-dire les traditions étrangères. C'est ce que je voulais indiquer, à savoir que nos traditions européennes, toutes européennes qu'elles soient, sont totalement différentes, pour ne pas dire contradictoires, et que c'est un des grands plaisirs du traducteur et des traducteurs que nous sommes de justement amener des traditions différentes à notre propre tradition.
Cher Jacques, merci. Merci à vous tous de vous être prêtés avec générosité aux questions et aux échanges de cette table ronde. Et donc, je propose de maintenant laisser la parole au public s'il y en a parmi vous qui souhaiteraient interroger tel ou tel intervenant sur ce qui vient d'être dit ou apporter un complément. Merci à vous.
Oui, merci à tous d'ailleurs de la qualité.
On vous entend très mal. Hein.
Merci à tous pour la qualité de ce débat et la façon dont effectivement un certain nombre de mots piégés ont été déminés. Il se trouve que vous avez fait référence à Pessoa et que je suis un des traducteurs de Pessoa. Oui. Et effectivement, je pense que au bout de ce débat, nous avons en main tous les éléments qui sont nos compagnons d'atelier en tant que traducteurs, intéressés, comme vient de le dire Jacques, à la transposition ou à la transmission d'un certain nombre de traditions qui ne sont pas forcément superposable comme cela avec les nôtres. Alors, j'avais une question. Il me semble que, puisqu'il a été question de décasyllabes qui traversent les époques, les aires géographiques, etc., mais qu'on a aussi beaucoup parlé de lexique, j'avais l'impression que il aurait peut-être fallu remettre dans le cœur du débat, la question du rythme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'idiome, ce n'est pas seulement le lexique, ce n'est pas seulement le niveau de langue. Tout poème est un organisme qui, effectivement, vit par son rythme. Et la question que je pose à chacun, enfin, à ceux qui voudront y répondre, c'est ça. Quelle place tient le rythme dans le dispositif qui permet d'articuler ces traditions, je ne vais pas utiliser le mot patrimoine, et notre vie moderne ou notre modernité vivante.
Alors, je crois que Dominique se propose de commencer à vous répondre.
Oui, enfin, un élément, pas plus. C'est vrai que je me sens coupable d'avoir beaucoup parlé de lexique, mais je voudrais préciser justement que, pour ma part, quand je traduis Virgile, je le traduis en vers, mais pas en alexandrin, surtout pas en alexandrin. Mais j'utilise un vers qui est le vlap, c'est-à-dire le vers libre asinartète pneumatique. Hein, c'est un vers libre, asinartète, c'est-à-dire qu'il est décomposable en différentes unités rythmiques qui s'accrochent les unes aux autres. Et il est pneumatique parce que le lecteur est libre de le lire en faisant les liaisons ou en ne le faisant pas, en lisant les E muets comme dans le Sud, vive le Sud, ou en ne les lisant pas comme dans le Nord, vive le Nord. Et puis voilà, quoi, démerdez-vous.
Oui.
Jacques,
Walt Whitman, dont il a été un tout petit peu question, légèrement. Walt Whitman écrit en 1855 son œuvre majeure, Des feuilles d'herbe. Pour le repère, 1857, Les fleurs du mal. J'ai toujours beaucoup aimé de juxtaposer les feuilles d'herbe d'un côté, les fleurs du mal de l'autre. Les fleurs du mal, c'est l'Europe, avec tous les malheurs qui vont venir. Et les feuilles d'herbe, avec cette vision végétale et végétative, en quelque sorte, de la poésie, est quelque chose qui est plein d'optimisme à l'époque. Il est le père du vers libre. Il invente le vers libre en anglais, mais il l'invente pour toutes les langues. L'un des premiers à le traduire, c'est Jules Laforgue, qu'on trouve dans l'édition chez Gallimard en 1917. Et simplement, ce que les traducteurs français, sauf Laforgue, de l'époque, n'ont pas compris, c'est qu'il invente le vers libre, c'est-à-dire sans rime. Il fait tomber la rime dans la langue anglaise, mais il fait passer la rime à la tête du vers, en tête du vers, parce qu'il prend un vers essentiellement trochaïque et spondaïque. Et donc, par ce vers trochaïque et spondaïque, c'est-à-dire double accent ou accent sur la première syllabe, il frappe du talon, il frappe du pied, en quelque sorte, le vers, et par image, la terre. Il invente un rythme, alors pour le coup, qu'on a envie de dire moderne, c'est-à-dire que c'est quasiment le rythme qui va être le rythme jazzé, le rythme du jazz. Il l'appelle, il l'annonce. Mais les premiers traducteurs de Whitman en Europe, où il est reçu de façon un peu mitigée, voire la brouille entre Gide et Claudel à cause de l'homosexualité de Whitman, Claudel accusant Gide de vouloir en faire un manifeste pour l'homosexualité et se brouillant définitivement avec Claudel à ce propos-là. Eh bien, en Europe, en France en particulier, on ne va pas saisir cette notion de rythme à laquelle tu fais allusion. Et donc, on va le traduire dans une première mouture de manière assez édulcorée.
Alors, Daniel voudrait juste ajouter un complément de réponse avec une lecture.
À propos du rythme, justement, qui est pour moi essentiel, et je voudrais vous donner lecture, non pas d'une traduction que j'ai faite, mais de la traduction d'un poète italien qui s'appelle Antonio Prete, qui est spécialiste des Leopardi, et qui a traduit « Les fleurs du mal », puisqu'il en est question, intégralement en vers, en undécasyllabes, puisque c'est le vers italien unanimement salué et qui est depuis toujours est le grand vers. Mais ce qui compte, ce n'est pas le décompte des syllabes, qu'il y ait 11 syllabes ou 10 ou 12. Ce qui compte, c'est la musique du vers et la musique de Baudelaire qu'on entend dans le texte italien. Alors, je vous le lis en italien. C'est l'albatros. Je pense que tout le monde connaît l'albatros en français. Alors, voilà ce que c'est. Est-ce que vous voulez que je vous le dise en français ? Non.
Non, en italien.
Spesso, per divertirsi, uomini d'equipaggio catturano degli alberi, vasti uccelli dei mari, che seguono compagni indolenti di viaggio il solco della nave sopra gli abissi amari. Li hanno appena posati sopra i legni dei ponti ed ecco quei sovrani dell'azzurro impacciati, le bianche grandi ali ora penosamente come fossero remi strascinare affannati. L'alato agiatore, come maldestro e fiacco, lui prima così bello, come ridicolo. Ora, c'è uno che gli afferra con una pipa il becco, c'è un altro che mima lo storpio che non vola. Al principe dei nembi il poeta somiglia, abita la tempesta e dell'arciere ride, esule sulla terra in mezzo a ostili grida, con l'alida gigante nel cammino s'impiglia.
Voilà. Merci à tous. Merci
je recommande
beaucoup
à tout le monde la lecture de ce livre qui s'appelle « À l'ombre de l'autre langue » où Antonio Prete explique ce qu'est traduire à ses yeux la poésie. Et ce n'est pas un traité de traductologie, c'est une mine d'or
pour toutes les langues, pour toutes les traductions de toutes les langues, c'est une pure merveille. C'est ma Bible.
Alors, nous aurions encore des tas de questions, d'échanges. Ceux qui souhaiteraient poser des questions aux interlocuteurs, on peut le faire hors la scène, puisque nous allons libérer la scène pour les manifestations suivantes. Je tiens d'abord à encore remercier chaleureusement nos interlocuteurs qu'on peut applaudir. Merci à vous pour votre attention et donc n'hésitez pas à venir poser vos questions hors la scène ou éventuellement autour d'un verre.
Et pour ceux qui le souhaiteraient, cette table ronde sera disponible sur le site internet du marché de la poésie si vous voulez la réécouter. Merci Bénédicte.